Le journal Loïc Barrière. La bande de Gaza a subi des frappes israéliennes ce vendredi. Il y a au moins un mort et 15 blessés. Le territoire palestinien a été fermé par l'armée israélienne qui redoute des représailles après l'arrestation d'un chef du djihad islamique. Le président Erdogan à Sotchi pour une rencontre avec Vladimir Poutine. L'économie, l'Ukraine et la Syrie au menu de leurs entretiens. Une démonstration de force des partisans de Moqtada Sadr à Bagdad. Ils ont manifesté pour réclamer des élections anticipées. La cour administrative de Paris a suspendu l'arrêté d'expulsion de l'imam Hassan Iquissen. Gérald Darmanin fait appel de cette décision devant le Conseil d'État. Les deux chambres du Parlement ont voté le deuxième volet des mesures en faveur du pouvoir d'achat. Réaction dans ce journal de Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Enfin, l'invité de parcours, demain à 11h et 23h, sera l'écrivain et journaliste Mustapha Benfodil, extrait dans ce journal. L'armée israélienne annonce avoir mené des frappes contre la bande de Gaza. Ce vendredi, l'une a visé le centre de la ville de Gaza. Bilan au moins un mort et 15 blessés selon le ministère palestinien de la Santé. Il y a 4 jours, l'armée israélienne a fermé les passages frontaliers à Gaza après l'arrestation d'un chef du djihad islamique. Israël explique avoir pris cette mesure afin d'empêcher une éventuelle attaque contre des civils israéliens. La centrale électrique de Gaza pourrait fermer en raison du bouclage israélien. Cette centrale a besoin de carburant pour fonctionner, mais aucun camion ne peut entrer ou sortir de Gaza, notamment ceux qui apportent du carburant. Le président Erdogan à Sotchi en Russie pour une rencontre avec Vladimir Poutine. Parmi les sujets à l'ordre du jour, la guerre en Ukraine et la situation en Syrie. La Syrie où Ankara veut lancer une opération militaire. Le président turc estime que son entretien avec Vladimir Poutine va ouvrir une page très différente dans les relations bilatérales. Le président russe a quant à lui espéré la signature d'un accord pour renforcer la coopération économique avec la Turquie. En Irak, des milliers de partisans de Moqtada Sadr ont manifesté pour la dissolution du Parlement et pour des législatives anticipées. La dissolution du Parlement doit être actée par un vote à la majorité absolue et peut être demandée par un tiers des députés irakiens ou par le Premier ministre avec l'accord du président de la République. En France, après 3 semaines de débats, l'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté définitivement le second volet du paquet de mesures en faveur du pouvoir d'achat. Le texte va permettre de revaloriser le point d'indice des fonctionnaires. Il entérine la suppression de la redevance audiovisuelle et la poursuite du bouclier tarifaire sur l'énergie. Quant à la monétisation des RTT, elle sera possible jusqu'à la fin 2025. Pour Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité, ce texte ne va pas aider les Français car la question des salaires n'a pas été abordée. Patrick Le Yarrick.
D'abord, ce n'est pas une loi de préservation du pouvoir d'achat. Toutes les dispositions qui ont été prises sont des dispositions qui font un peu de rattrapage sur les années précédentes ou sur les mois précédents, mais ne constituent pas du tout un dispositif de protection du pouvoir d'achat. Par exemple, quand on augmente le point d'indice des agents publics de 3,5%, ces 3,5% sur une inflation qui va faire sans doute 8%, mais sur une baisse de la valeur du point d'indice d'à peu près 16% ces 20 dernières années. Par conséquent, on nous raconte des sornettes, de même que le dispositif d'abaissement sur le prix des carburants de 30 centimes, d'abord, il n'aura lieu qu'au mois de septembre, quand tout le monde aura utilisé bien plus son véhicule, parce que c'est le moment de l'été, parce que pour certaines personnes, ce sont les vacances. Mais ces 30 centimes sont en vérité une subvention non pas aux consommateurs, mais une subvention à la compagnie pétrolière. Pourquoi? Parce que ce que le consommateur ne paye pas à la pompe, il le paye en impôts puisque c'est l'État qui finance. Donc on voit bien que ce ne sont pas du tout des dispositifs de préservation du pouvoir d'achat. En vérité, le gouvernement et la majorité de droite, avec la majorité de droite, ont refusé de discuter de l'augmentation des rémunérations du travail et d'un encadrement des prix. Si on voulait préserver le pouvoir d'achat, eh bien on indexerait les salaires sur l'évolution des prix.
Que pensez-vous de la disposition qui permet aux salariés de vendre leur RTT pour gagner un peu d'argent?
Mais là c'est pareil, on voit bien que c'est un dispositif qui détruit un droit social, un conquis social, pour ne pas avoir à augmenter les salaires. Mais mieux que ça, celui qui va ainsi racheter ses RTT, c'est-à-dire il aura moins de repos, donc son travail va être, et même son corps va être surexploité, mais ceci n'aura comme incidence pour les caisses de sécurité sociale d'aggraver encore les déficits puisqu'ils ne sont pas assujettis une certaine partie selon les rémunérations et selon la taille des entreprises, les cotisations salariales et les cotisations patronales vont être réduites, donc on va mettre en cause la sécurité sociale demain, la mettre en difficulté. Et donc, demain, on viendra nous dire, la bouche en cœur, ah ben vous voyez, nos déficits sont tellement importants qu'on ne peut pas continuer, donc il faut donner l'assurance sociale, la sécurité sociale aux assurances privées. Il y a une cohérence dans ce qu'ils font, c'est-à-dire il y a un discours, il y a des mots qui sont des mots communs, qui répondent à des aspirations populaires, mais en vérité, ça constitue des régressions sociales extrêmement importantes et qui sont graves pour aujourd'hui et pour l'avenir.
Les Français doivent-ils se réjouir de la suppression de la redevance audiovisuelle qui va leur permettre d'économiser 138 euros par an?
Non, pas du tout. Parce que là, c'est pareil. Cette mesure-là, elle vise à ne pas avoir à demander aux employeurs d'augmenter les rémunérations du travail. Il n'y a aucun débat, aucune discussion, aucune incitation là-dessus. Et on trouve une mesure qui vise quand même à enlever 3 200 000 000 à l'audiovisuel public, c'est-à-dire à maintenir un système audiovisuel français qui participe à la création, à la diversité culturelle, à l'exception culturelle et à une qualité de l'information. On peut en dire ce qu'on veut, mais elle est plutôt un peu plus équilibrée que dans d'autres endroits, dans d'autres télévisions, des chaînes d'information continue. Et donc ça contrebalance un peu, bien qu'il y ait des remarques à faire. Mais on va faire ça payer, on va faire payer cela par la TVA. Mais autrement dit, soit on augmente la TVA pour maintenir un service d'audiovisuel public, soit peu à peu on va assécher l'audiovisuel public et vendre par compartiment ceci. Ce que demandait d'ailleurs l'extrême droite. Souvenons-nous que l'extrême droite a demandé deux choses, la suppression de la redevance comme mesure démagogique et en même temps la privatisation. Une extrême droite qui défend, paraît-il, les intérêts nationaux. Mais tout le monde sait très bien que quand l'audiovisuel public français sera à vendre, ce sont des groupes privés étrangers qui l'acheteront, soit Amazon, soit Google, et pourquoi pas Netflix.
Patrick Le Yarrick, éditorialiste à l'Humanité. Le tribunal administratif de Paris suspend l'expulsion de l'imam Hassan Iquissen. Cette juridiction estime qu'elle porterait une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale. L'arrêté d'expulsion de cet imam de 57 ans était motivé par ses propos haineux à l'égard de la France. Selon les propos de Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur a annoncé qu'il faisait appel de la décision devant le Conseil d'État. Toujours en France, plus d'une centaine de communes n'ont plus d'eau potable en raison de la sécheresse. C'est ce qu'a annoncé le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, pour coordonner les moyens de l'État face à la sécheresse. Une cellule interministérielle de crise a été ouverte par Elisabeth Borne. 93 départements font l'objet de restrictions d'eau. Le mari de la femme enceinte tuée à Montargis dans le Loiret va être poursuivi pour meurtre avec acte de torture et barbarie, tout comme sa deuxième compagne qui vivait au domicile du couple. Selon le procureur, la cause de sa mort est un traumatisme crânien grave. La jeune femme de 31 ans, enceinte de 8 mois, est décédée à l'hôpital. Son bébé n'a pas pu être sauvé. Enfin, l'invité de parcours ce samedi à 11h et 23h sur Radio Orient sera l'écrivain et journaliste algérien Mustapha Ben Fodil. Extrait de cette émission, il évoque son travail de journaliste durant la décennie noire en Algérie.
Oui, en tout cas, il n'était pas du tout évident de circuler avec une carte de presse, puisque les journalistes étaient pris pour cible. Ils étaient considérés comme des auxiliaires du pouvoir. Qui a suspendu ou a arrêté les élections gagnées, remportées par le fils? Donc forcément, ils étaient considérés comme des cibles à abattre, des belligérants, entre guillemets. Et donc, nous étions effectivement pris pour cible. Et moi, disons, je rappelle juste, j'ouvre une parenthèse pour rappeler qu'il y a eu plus de 100 journalistes assassinés en Algérie. Mais un jour, c'était le 11 février 96, il y a eu un véhicule piégé qui a explosé devant le journal où je travaillais à l'époque, qui s'appelle Le Soir d'Algérie. Il y a eu en tout 18 personnes tuées, c'est-à-dire avec les passants. C'était en plein Ramadan, et parmi eux, il y avait trois de mes collègues, et à qui je pense très très fort. Et moi, il se trouve que j'étais en reportage à Tamanrasset, dans le sud algérien. C'est ça un peu qui m'a sauvé la vie. Et donc, c'est vrai, c'était une période extrêmement marquante. Et en même temps, c'était aussi une période exaltante, dans la mesure où le métier avait du sens. On sentait que c'était pas encore l'emprise de l'argent comme aujourd'hui, ou l'emprise un peu du pouvoir, ou dans tous les pouvoirs, parce qu'on sent qu'aujourd'hui le métier il ne fascine plus, il ne séduit plus, c'est devenu quelque chose d'un peu ringard, d'un peu déconsidéré.
Quand on était en France dans les années 90 et qu'il y avait tous ces attentats en Algérie, on était frappé de l'absence d'image sur les chaînes d'information françaises. Mm-hmm. Il n'y avait pas Internet à l'époque, il faut le rappeler. Oui. Comment on donne une information aussi grave que il y a eu un attentat dans tel endroit, alors que vous avez aussi l'État qui surveille?
Absolument. Moi, comme j'étais jeune journaliste, du coup, je ne traitais pas ce qu'on appelle l'information sécuritaire, qui est l'information la plus problématique et la plus polémique. Parce qu'on disait que les journalistes étaient en gros embedded et qu'ils ne faisaient que reprendre le récit officiel. C'est-à-dire, il n'y a pas possibilité d'enquête. Donc, il y avait les journalistes qui ne pouvaient pas enquêter, il y avait la justice qui ne pouvait pas enquêter. Et comme les crimes étaient massifs, donc ça s'est accumulé et ça a donné aujourd'hui un nœud qui, à mon sens, dans la période post-22 février, doit être résolu. C'est-à-dire il faut qu'il y ait un débat public sur ce qui s'est passé ces années-là, et la presse elle a une part de responsabilité. Donc il y a eu énormément de zones d'ombre sur plein d'assassinats. Mais moi, mon travail à moi, et il n'a pas changé depuis ces années-là jusqu'à aujourd'hui. Moi, je travaille pas avec les pouvoirs politiques, je travaille pas avec les institutions, moi, je travaille avec les gens. C'est-à-dire, moi, mon travail, en fait, quand il se passe un attentat, je vais d'abord voir les populations, à mes risques et périls. C'est-à-dire, il m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des villages, dans des campagnes, où il y avait pas loin de là des groupes qui étaient encore en action. Et en fait, la seule source, en tout cas, en général, comment on procède, c'est les hôpitaux d'abord. Donc quand il y a les victimes, c'est les hôpitaux qui nous donnent le renseignement sur le nombre des victimes, sur l'état des victimes, et bien sûr les familles. Donc, et moi, mon travail, c'était vraiment de restituer la dignité de ces personnes en racontant la précarité, la fragilité de ces personnes, leur abandon parfois, parce que souvent elles étaient livrées à elles-mêmes. Et après, pour parvenir à une forme de complexité qui donne la parole à tous les acteurs, ça, par contre, c'était très très difficile, parce que bon, bien sûr que pour les gens armés, il était extrêmement difficile de les toucher. En tout cas, c'était même moralement, c'est limite, quoi, parce qu'il y avait ce débat-là sur. Par exemple, j'ai interviewé parfois après ce qu'on a appelé la concorde civile, il y a eu des gens qui étaient dans la mairie qui sont descendus. Moi, j'en ai rencontré quelqu'un parce que je voulais comprendre. Je voulais comprendre. Donc, parmi eux, il y en a qui avaient des responsabilités, on va dire,
ils
de la
sont sur les mains.
Voilà. Et ces questions-là, par exemple, faisaient débat. En tout cas, on me l'a reproché parfois. On me dit, pourquoi tu leur donnes la parole? Je dis, je vais juste essayer de comprendre. Parce qu'un journaliste, c'est aussi quelqu'un qui essaye de comprendre. Et c'est pas facile. Et même en Irak, pareil. J'ai été en Irak. On va pas débarquer en Irak comme ça. Et on se dit, allez, on va parler aux Américains, parler aux Irakiens. Ça se passe pas du tout comme ça.
Vous n'avez jamais songé à quitter l'Algérie durant les années noires?
Non, jamais, jamais. Bien au contraire, j'ai même passé mon service militaire durant les années noires, c'est-à-dire parce que je l'ai passé en 97-98 pendant les massacres. Mais quand moi je suis rentré, il n'y avait pas encore les massacres de Bentalha, de Raïs, de Hajkala, qui étaient les plus meurtriers. En fait, j'y suis allé parce que d'abord, je n'avais pas trop le choix, mais en plus, j'avais une part de curiosité parce que l'armée... C'est quand même un acteur majeur de la vie en Algérie et c'est formateur et je ne le regrette pas.
Le journaliste et l'écrivain est allé faire son service militaire avec un regard particulier.
Particulier, j'écrivais dans l'armée et j'étais un peu embêté parce qu'on m'a tout de suite signifié qu'il n'est pas question d'écrire. Mais moi, je m'arrangeais pour... j'avais toujours un petit calepin dans ma poche. Et c'est comme ça que j'ai écrit un roman qui s'intitule Zarta, qui est mon premier roman publié par Balzac en 2000.
Et l'écrivain et journaliste algérien Mustapha Ben Fodil, il est l'invité de Parcours sur Radio Orient ce samedi à 11h et 23h. Cette édition est terminée. Excellent week-end à tous.